Donc nous sommes au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Comme l'a dit Sophie, la communauté du roi. Et nous nous penchons aujourd'hui, logiquement, après le chapitre 11, sur le chapitre 12, que je vais lire maintenant. Je lis dans la version second 21. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. Ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Est-ce qu'on peut projeter? Très bien. J'ai identifié dans ce texte que nous venons de lire trois parties. La première s'affiche ici, l'esprit et ses dons. La première partie, du début jusqu'au verset 11. Ensuite, le corps, à partir du verset 12 et jusqu'au verset 27. Et la troisième partie, l'Église, versets 28 à 30. Et vous allez me dire le verset 31. Et le verset 31, je dirais que je ne fais rentrer dans aucune de ces trois parties, mais c'est plutôt une recommandation. Et nous y reviendrons donc à la fin. Et nous attaquons la première partie, l'esprit et ses dons. Dans cette partie, nous avons tout d'abord un préambule. Préambule dans lequel Paul nous rappelle que s'il parle de l'esprit, il s'agit bien sûr, bien entendu, évidemment, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Pas de toutes sortes d'esprits, en particulier, pas d'esprit de toutes sortes d'idoles ou de divinités imaginées par les hommes. Et Paul s'empresse de faire référence à Jésus pour rappeler qu'il ne peut pas exister de contradiction entre les paroles de Jésus, son enseignement, et ce qu'il nous révèle aujourd'hui, ce qu'il nous dit aujourd'hui par son esprit. Entre ses actes et l'action qu'il suscite par son esprit. Et Paul nous met en garde dans ce préambule contre toute incohérence dans la conception et la mise en œuvre de la foi au quotidien dans l'Église et notre foi en Jésus-Christ. Paul se place et nous place dans la continuité de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et puis il se lance ensuite dans une espèce de pas de deux entre la diversité des dons et un même esprit. Nous n'allons pas le relire. Vous aurez remarqué, la liste est longue, mais chaque don évoqué ici est suscité par l'esprit. Il prend bien soin de le répéter par le même esprit à chaque nouveau don qu'il cite. Et l'esprit, comme il l'a dit auparavant, l'esprit du Seigneur, bien entendu. L'énumération des dons qui est faite ici, pour être longue, n'en est pas pour autant exhaustive. Et nous en trouvons plusieurs autres de ces dons dans les épîtres de Paul, dans d'autres épîtres de Paul, notamment aux Romains et aux Éphésiens. Et de fait, son but est moins de fournir une liste de dons, d'inventorier les dons, que de nous rappeler qui en est l'auteur, qui en est le metteur en scène, l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Ceci afin que nous n'exercions pas ces dons à la légère, afin que nous soyons attentifs à demeurer sous le contrôle de l'Esprit, à ne pas dévier de l'enseignement de la parole de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas de basculer dans l'excès inverse au point d'étouffer et de museler les dons, ce qui serait tout aussi contraire à l'Esprit du Seigneur, pas plus que de nous rendre timorés ou hésitants au moment de les exercer. Mais rappelons-nous, ça a été déjà commenté la semaine dernière, que nous sommes dans le contexte d'une communauté des Corinthiens à Corinthe qui est en pleine déliquescence et où, pour reprendre une expression déjà vue dans le livre des Juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et l'esprit était probablement, dans cette communauté, à ce qu'on comprend, le prétexte à toutes sortes de débordements, de chacun se justifiant, se déclarant inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais à l'inverse, à d'autres communautés, comme aux Thessaloniciens, Paul dira « N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Donc, la réserve que semble exprimer Paul ici, en tout cas la canalisation qu'il donne à l'exercice du don de l'Esprit, n'a pas pour but de museler, d'étouffer le don, mais de vraiment de le remettre dans le droit fil de ce que l'Esprit et de l'Esprit du Seigneur, de ce que le Seigneur, de la manière avec laquelle il veut contrôler l'exercice des dons. Nous avons dit qu'une chose essentielle entre l'enseignement de Jésus et la parole de Dieu et ce que suscite l'Esprit en nous, c'est la cohérence, la continuité, qui ne peut pas y avoir de contradiction. Et donc l'Esprit de Dieu ne peut pas susciter des paroles et des actes contraires à la parole de Dieu, et ceci est valable dans l'exercice des dons. Et puis nous avons une deuxième affirmation au verset 7. Donc j'ai été un petit peu... voilà, tout ça j'aurais dû vous l'afficher au fur et à mesure que j'en parlais. Donc nous avons parlé de l'Esprit de Dieu dans le verset 3, la diversité des dons. Et nous avons une deuxième affirmation au verset 7 qui nous dit que la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et c'est là une clé de discernement, tout aussi importante que la première. Mais si la première concernait la source, l'origine, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, celle-ci est tournée vers la destination, vers le but, l'objectif qui est le bien de tous. Et avant de passer à la deuxième partie de notre texte, je voudrais attirer votre attention sur les versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Verset 4, le même Esprit. Verset 5, le même Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Verset 6, le même Dieu, Dieu le Père. Et nous avons ici une mention des trois personnes de la Trinité, notre modèle d'unité dans la diversité qui se trouve déjà dans la Trinité. Dieu n'a pas inventé, créé la diversité avec l'humanité. La diversité existe déjà en Dieu. Et Dieu ne nous appelle pas à pratiquer une unité dans la diversité dont il se serait lui-même dispensé. La deuxième partie de notre texte concerne le corps. On dit souvent que Paul compare ici l'Église à un corps. Ce n'est pas faux, mais s'il introduit le corps, l'image du corps à titre de comparaison, il la termine au verset 27 par « Vous êtes le corps de Christ ». Vous êtes le corps de Christ. Vous n'êtes pas comme le corps de Christ, vous êtes le corps de Christ. L'Église, donc, est le corps de Christ, n'est pas comme le corps de Christ, elle est le corps de Christ. Et nous trouvons cette affirmation dans d'autres écrits de l'apôtre, avec la précision supplémentaire, le corps dont Christ est le chef, la tête. D'autre part, il ne s'agit pas d'un corps, ici d'un corps quelconque, j'entends, d'un corps lambda, mais du corps de Christ. Vous êtes le corps du Christ, c'est-à-dire que c'est la mission, c'est-à-dire c'est à l'Église qu'il a confié la mission de faire des disciples et de perpétuer son enseignement. C'est par elle qu'il agit aujourd'hui, c'est auprès d'elle qu'il se tient chaque jour jusqu'à la fin du monde. Nous l'avons dit ce matin, Monique a été aussi insistante sur ce point qu'il est avec nous tous les jours et aujourd'hui encore jusqu'à la fin du monde. Et donc là encore, il s'agit de nous responsabiliser dans la manière avec laquelle nous vivons en communauté. La communauté du roi est une communauté d'acteurs responsables les uns envers les autres. Il y a diversité de dons. Comme il y a diversité de dons, nous dit l'apôtre Paul, il y a diversité d'organes. Mais ce n'est pas tant sur la diversité que Paul insiste que sur l'interdépendance des organes à l'égard du corps. Et Paul aborde cette question sous deux angles. Il prend deux exemples. Le premier exemple serait motivé par un désir d'indépendance. Puisque je ne suis pas une main, puisque je ne suis pas une oreille, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps. Voilà. Un désir d'indépendance. Et il démontre l'absurdité d'une telle éventualité. Et on l'a déjà vu dans la parabole du cep et des sarments. Un sarment qui se détache pour aller se planter tout seul et mener une vie indépendante du cep, ça n'existe pas. Aucun d'entre nous n'a jamais croisé une main toute seule dans la rue. Salut, qu'est-ce que tu deviens ? Je bricole. Un œil, je regarde. Enfin, c'est idiot, il n'aurait même pas la bouche pour le dire. Il n'a même pas l'oreille pour entendre la question. Et c'est aussi la conclusion de Paul face à cette absurdité. Que serait un tel corps ? Pourrait-il même être qualifié de corps ? Le deuxième angle, c'est un désir d'exclusion, de mise à l'écart d'un organe par un autre organe. Je n'ai pas besoin de toi. Ou d'un groupe d'organes. Je n'ai pas besoin de vous. Tout aussi absurde l'une que l'autre, ces deux hypothèses sont néanmoins très sérieusement évoquées par Paul, parce que pour autant qu'elles sont absurdes dans la réalité, il les voit bel et bien en action dans la communauté des Corinthiens. Comment est-ce possible ? Dans les chapitres précédents, les tout premiers chapitres, chapitre 2, chapitre 3, Paul a mis en évidence que certains, chez les Corinthiens, s'expriment, chez les chrétiens de Corinthe, pas tous les Corinthiens, mais les chrétiens corinthiens, s'estimaient plus spirituels que les autres. Maniant l'ironie, même Paul les a appelés les spirituels, vous, les spirituels. Ils avaient tendance à se considérer comme déjà arrivés au but, parvenus au stade spirituel ultime. Plus d'efforts à faire, plus rien à prendre, ils planent quoi. Ils sont au-dessus des contingences terrestres et prétextant la liberté supérieure qu'ils ont en Christ, ils laissent proliférer en leur sein une immoralité et une injustice qu'on ne trouve même pas chez les non-croyants qui les entourent. Et tant pis pour les faibles, qui étaient superbement négligés au lieu d'être l'objet de soins attentionnés. Et dans cette allusion aux parties les moins honorables du corps, Paul affirme qu'elles sont nécessaires. Comment est-ce possible ? Nous aimerions tant qu'il n'y ait aucun pauvre parmi nous, aucun déficient social, aucun déficient physique ou mental, aucun réfugié, aucune victime de violence conjugale. C'est tellement triste tout ça. Comment affirmer que c'est nécessaire dans l'Église ? Paul donne la réponse lui-même, verset 25, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » Le corps du Christ est dans la vraie vie. Il n'est pas une élite. Il ne se dispense pas de se confronter aux réalités de la vie terrestre. Il ne sélectionne pas les organes qui lui conviennent le mieux ou qui sont les plus présentables. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est ce que nous dit Paul au verset 27. Être corps. Faire corps. Un corps fait tout pour maintenir son intégrité. Il est tout entier tourné vers sa préservation et son développement. Dans un corps, tous les organes sont importants. Un corps dont on peut retirer un organe sans dommage, ça n'existe pas. Dans l'Église, tous les dons sont importants. Et ils sont importants non seulement, non par eux-mêmes, mais par le fait que Dieu les a donnés. Il les a donnés à l'Église par l'Esprit et pour le bien de tous. C'est en cela qu'ils sont importants, parce qu'ils sont un don de Dieu. L'émergence d'un don au sein d'une assemblée, à condition qu'il soit contrôlé par l'Esprit et en manifeste le fruit, l'émergence d'un don au sein d'une assemblée est en soi un signe de la manière avec laquelle Dieu va agir dans cette assemblée pour le bien de tous. Voici qui nous amène à la troisième partie, l'Église. À partir du verset 28, Paul rétablit l'ordre des choses qui a été tant mis à mal chez les Corinthiens. Il énumère les ministères, et tout d'abord, les ministères de la parole. Premièrement, les apôtres, ceux qui ont le don, après les apôtres initiaux, bien sûr, ceux qui ont le don aujourd'hui de fonder et de labourer des champs nouveaux. Deuxièmement, les prophètes. Ce qu'on entend par prophète dans le Nouveau Testament, ce sera développé la semaine prochaine en parcourant le chapitre 14, parce que dans ce chapitre, nous en trouvons une définition. Et donc, je vous invite la semaine prochaine pour nous pencher plus particulièrement avec Eric sur ce qu'est un prophète dans le Nouveau Testament. Disons simplement aujourd'hui qu'il s'agit des prédicateurs, de tous ceux qui ont pour don la proclamation publique de la parole. Troisièmement, les enseignants, c'est-à-dire ceux qui ont le don d'enseigner les autres, que ce soit en privé ou en groupe, comme dans les groupes de maison, les études bibliques, les groupes de femmes, les groupes d'hommes, les étudiants, les jeunes, les enfants, par tranche d'âge, et cette liste n'est pas exhaustive. Voilà quels sont les trois ministères de la parole dans l'Église. Ensuite, nous dit Paul, viennent les miracles, littéralement actes de puissance, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Nous avons là les ministères du service et de l'entraide. Ensuite, nous dit Paul, ce ensuite qui se situe entre ces deux listes, dans le contexte des Corinthiens et des lignes qui précèdent, je le comprends dans le sens ensuite seulement. En effet, les Corinthiens ont tellement monté en épingle les dons les plus spectaculaires, en particulier le don du parler en langue, et tellement négligé les dons s'exerçant autour de la parole, qu'ils en sont venus à mépriser Paul et à minimiser son ministère. Ils ont même établi des comparaisons entre les apôtres, se réclamant l'un d'un tel, l'autre d'un autre, comme si l'évangile de Jésus-Christ était affaire d'école de pensée. Paul remet les choses en bon ordre. Une église commence toujours là où la parole est prêchée. Les dons initiaux sont ceux du ministère de la parole. C'est clairement visible dans le livre des Actes. L'Église a démarré avec la prédication des apôtres. Ensuite, dans un deuxième temps, l'épisode d'Actes 6 nous montre très vite qu'un ministère d'entraide s'avère nécessaire afin que les apôtres ne soient pas détournés de leur tâche première. Mais on ne pourrait pas inverser cet ordre dans le sens que les faits d'acte 6 pourraient se dérouler dans acte 2 et inversement. Dans ce cas, acte 2 serait une œuvre chrétienne, éventuellement, mais pas encore une église. Mais acte 6 nous montre aussi que les personnes choisies pour exercer leur ministère d'entraide devront être remplies de l'Esprit, et pas moins que les apôtres. Les cas de Philippe et d'Étienne montrent de manière indiscutable que le casting est particulièrement réussi sur ce point. L'Esprit, c'est l'Esprit, et on n'en a pas un peu plus ou un peu moins. Si l'Esprit suscite un don, c'est qu'il est important et utile pour le bien de tous, quel qu'il soit. Et petit à petit, toutes sortes de ministères de service vont ainsi, en quelque sorte, entourer et renforcer les ministères de la parole. Pour terminer, nous avons cette... Nous avons cette recommandation au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs ». Qu'est-ce que les dons les meilleurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Philippe, tu viens juste de dire que tous les dons sont importants. Alors pourquoi dans ce cas, y en aurait-il de meilleurs ? Et pourquoi devrais-je plutôt reluquer vers tel don que vers celui auquel l'Esprit m'appelle, celui qu'il suscite en moi ? Une fois de plus, il faut nous rappeler le triste état de l'Église de Corinthe, avec ses membres spirituels plus, leur frénésie incontrôlée des dons de l'Esprit, dans l'exercice des dons de l'Esprit, en particulier celui du parler en langue, un don qui est par ailleurs reconnu et pratiqué par Paul lui-même. Dans un tel contexte, il est clair que un chrétien ne peut qu'aspirer, et qui aspire à avoir un don, aspire sous la pression culturelle, sous la pression spirituelle d'un tel contexte, à avoir ce don-là. Une aspiration qui ne provient évidemment pas de l'Esprit, mais de cette pression à laquelle il est soumis. Paul leur dit ici, il n'y a pas que ce don dans la vie chrétienne. Il y a diversité de dons, mais c'est l'Esprit qui les distribue à chacun en particulier comme il veut. L'Esprit ne fait pas d'erreur de casting. Je vous invite à lire l'article très détaillé qui se trouve dans les cahiers de l'école pastorale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une publication qui paraît tous les trimestres, qui est destinée aux... je dirais destiné à tout le monde, mais qui est très utile pour les pasteurs. Et il y a vraiment des articles très intéressants et vraiment très bien écrits, même pour quelqu'un qui n'a pas fait une école biblique pour comprendre la parole de Dieu. Et donc je vous invite à lire le cahier numéro 117. De quelle année c'était ? 2020, je crois. Voilà, troisième trimestre 2020, dans le cahier de l'école pastorale 117, un commentaire très intéressant sur cette recommandation de Paul aux Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs. Je laisse à Eric la dernière phrase du... Eric, la semaine prochaine, la dernière phrase de notre texte. Je vais encore vous montrer une voie par excellence, qui est vraiment une introduction, une projection sur le chapitre que nous allons voir la semaine prochaine. Mais sur la base de ce que nous avons vu aujourd'hui, comment discerner les dons les meilleurs ? Les meilleurs dons sont donnés par l'Esprit pour le bien de tous. Les meilleurs dons préserve et renforce l'unité du corps. Les meilleurs dons édifient et rendent service à l'Église. Bonne journée à vous.